France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esprit.
Un jour dans le monde, c'est un jour de négociation ou pas entre l'Ukraine et la Russie.
Nothing's gonna happen until Putin and I get together.
C'est Donald Trump, vous l'avez reconnu dans son avion à l'arrivée à Doha, qui est la dernière étape de son voyage dans le Golfe. Il ne se passera rien en Ukraine tant que je n'aurai pas rencontré Poutine, dit-il. On va y revenir tout de suite sur cette phrase. Bonsoir Michel Duclos.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Vous avez de nombreux liens avec les autorités ukrainiennes. Quand Trump dit « il ne se passera rien sur l'Ukraine tant que je n'aurai pas rencontré Vladimir Poutine », est-ce qu'il a raison ?
Alors, je crains qu'il ait raison, même si il peut quand même se produire qu'en amont de cette éventuelle rencontre au sommet, il y ait quand même des négociations à un niveau plus technique ou même plus politique qui permettent de préparer la rencontre. Mmh. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en disant cela, M. Trump, à nouveau, donne un avantage considérable à Poutine. Mm-hmm. Et au fond, cette idée que les choses sérieuses se passent entre les grands, entre mm-hmm. la Russie et les États-Unis, et probablement entre leurs chefs d'État, c'est exactement l'agenda de M. Poutine.
Et sous-entendu d'ailleurs, quand on dit les grands, donc c'est Trump-Poutine, mais Volodymyr Zelensky ne fait pas partie des grands, c'est aussi ce qu'on entend en creux finalement.
C'est ni Zelensky, ni les Européens, naturellement.
Est-ce que vous diriez quand même que là, dans cet épisode turc, Michel Duclos, Poutine a été peut-être piégé par lui-même, parce qu'après tout, les négociations, au tout début, c'est lui qui les demande, c'est ce qu'a redit aujourd'hui Zelensky, là-dessus, il a raison. Est-ce que vous diriez qu'il s'est dérobé et donc il a perdu des points? Ou pardon, est-ce que l'option 3, c'est qu'il s'en fiche complètement et, pardonnez-moi l'expression, mais il promène le chien, Vladimir Poutine?
Non, je crois que Poutine a très bien joué parce que il y avait un vrai risque pour lui le week-end dernier quand les Européens et les Américains s'étaient retrouvés sur la même ligne. Mm-hmm. Et cette ligne, c'était de réclamer un cessez-le-feu et de menacer de sanctions si Poutine n'acceptait pas le cessez-le-feu. Mm-hmm. Or, il a suffi qu'ils disent rencontrons-nous, lançons des négociations à Istanbul pour que immédiatement Trump oublie la question du cessez-le-feu. Ils disent quelle bonne idée, oui, il faut des négociations. Mmh. Et aujourd'hui, bah, vous remarquez que toute l'attention se porte sur autre chose que sur un cessez-le-feu et sur les sanctions. Et Trump est le premier à dire, finalement, c'est à mon niveau que ça va se passer. Donc, il a déjà oublié ce qui était son programme du week-end dernier.
Ça veut dire
Je pense que les Russes ont réussi une manœuvre de diversion, une fois de plus.
Ça veut dire que Vladimir Poutine, au fond, attend que Trump lui offre sur un plateau, comme c'est le cas depuis le début, ce qu'il demande, ce que demande Vladimir Poutine.
Oui, alors, pour la question, c'est pourquoi ? Il y a une premier élément de réponse, c'est qu'il a le sentiment que sur le terrain, c'est lui qui est gagnant. Mmh. Le rapport de force est en son faveur, donc il ne voit pas pourquoi il arrêterait. Une deuxième raison, c'est qu'effectivement, il pense que Trump est une bonne carte pour lui, qu'il peut la perdre comme ça de temps en temps, mais qu'il finira toujours par la récupérer, et que effectivement, c'est avec Trump qu'il obtiendra ce qu'il voudra.
Ça veut dire que Trump, on sait très bien quel personnage versatile est Donald Trump, mais
il en a donné une nouvelle fois
exactement.
L'illustration.
Mais je vous entends, Michel Duclos, j'ai l'impression que cette versatilité est bien plus dangereuse pour Volodymyr Zelensky que pour Vladimir Poutine, et probablement parce que Poutine est toujours maître des horloges dans cette histoire.
Enfin, du moins, c'est l'impression qu'il a. Hein. Ceci dit, il est probable aussi que ses propres militaires ne lui font pas des rapports complètement exacts de ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand même, la Russie a du mal à marquer des points. Hein. Elle ne progresse plus vraiment sur le terrain. Et par ailleurs, les autorités économiques russes publient de moins en moins de statistiques. Mmh. Ce qui signifie quand même que l'économie russe commence à souffrir. Mais les Russes sont excellents dans ce qu'on appelle en anglais le poker face. C'est-à-dire, ils font comme si Il n'avait aucune préoccupation et il mène ce jeu donc de manipulation de leur interlocuteur américain.
Si vous mettez vos habits de diplomate, Michel Duclos, et si vous étiez là au milieu des négociateurs russes et ukrainiens en ce moment à Istanbul, est-ce qu'il faut se dire déjà qu'Istanbul est un coup pour rien ? Que ça sert à rien de s'agiter, ça sert même à rien d'essayer, c'est un pchit, hein, puisque de toute façon, par ailleurs, les deux approches sont diamétralement opposées. Est-ce que, comme le fait Volodymyr Zelensky, il faut quand même insister, quitte à avoir des négociations dont on sait qu'il n'en sortira rien, et à deux niveaux qui sont deux niveaux différents, puisqu'on l'a déjà beaucoup dit, la délégation qu'envoie Vladimir Poutine est en quelque sorte une sous-délégation par rapport à celle de l'Ukraine.
Oui, mais la... Alors, bon, pour reprendre votre question, les diplomates ont l'habitude de se rencontrer de façon apparemment inutile, parce que ça permet de définir les paramètres d'une négociation, le jour où vraiment des négociations peuvent démarrer. Là, je crains qu'on ne soit pas dans ce cas-là, parce que précisément, le message qu'adressent les Russes en ayant choisi Istanbul d'une part, et en envoyant une délégation qui est à peu près la même que
celle de 2022,
il y a trois ans, le message qu'ils envoient, c'est « nous, on n'a pas changé de position, on veut toujours la même chose qu'il y a trois ans, c'est-à-dire la fin de la souveraineté ukrainienne, non seulement des concessions territoriales, mais aussi des limitations fortes sur l'armement ukrainien, une sorte de neutralisation du pays. » Et donc, l'agenda diplomatique de la Russie n'a pas changé d'un iota depuis trois ans.
L'agenda n'a pas changé, vous le rappelez, Michel Duclos. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que depuis Trump, si on veut faire une chronologie, il y a eu un premier coup de fil à Vladimir Poutine, c'est venu très tôt. Et puis il y a eu l'affaire dans le bureau ovale avec Zelensky. Et puis il y a eu la rencontre avec le Vatican qui a un petit peu rabiboché américain et ukrainien. Et puis il y a eu la proposition de négociation. Et puis il y a la visite européenne à Kiev. On a le sentiment que l'histoire avance vite. On a le sentiment que la diplomatie s'emballe. Mais quand on regarde le rapport des forces, quand on regarde ce qui se passe, est-ce qu'au fond, depuis l'arrivée de Trump, il ne s'est absolument rien passé, en fait ?
Oui,
à part beaucoup de bruit.
Oui, le fait qu'il ne se passe rien, c'est déjà en soi un développement important. Alors, ceci dit, parmi les gens qui suivent ce terrible dossier, il y a deux interprétations possibles. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est toujours actuellement dans une espèce de guerre de propagande, hein, où il s'agit de marquer des points d'opinion publique, d'impressionner tel ou tel partenaire, en l'occurrence surtout M. Trump, et que la vraie négociation n'a pas commencé. Donc, effectivement, c'est un peu du surplace. On peut dire aussi, je le reconnais, que malgré tout, quelque chose est enclenché. Et que donc, malgré tout, les choses bougent. Et en ce sens, le fait que les Européens aient réussi quand même à se remettre dans la boucle, le fait que maintenant Trump à nouveau parle de rencontres au sommet, ça indique quand même qu'il y a un certain mouvement qui se produit.
Vous croyez pas qu'on pardonnez-moi, vous croyez pas qu'on va retourner à cette discussion qu'on a au fond déjà eue ? Vous dites effectivement, il se passe des choses et peut-être que Trump va rencontrer Vladimir Poutine et à ce moment-là, on réentendra l'Ukraine et probablement à juste titre. Et on réentendra d'ailleurs l'Europe aussi là-dessus dire il ne peut pas y avoir des réunions à deux, il faut être trois dans cette réunion. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues il y a quelques semaines de ça.
Voilà, mais pour moi, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que nous allons réussir à remettre la question du cessez-le-feu et des sanctions en cas de non-respect par la Russie sur le devant de la table ? Et est-ce que nous allons réussir à ramener Trump sur cette ligne-là ? Pour l'instant, il s'en est écarté. Et donc, pour l'instant, l'Ukraine et les Européens ont reculé.
Deux questions en une pour vous, Michel Duclos. Est-ce que vous diriez, vous avez raison, vous nous l'avez dit, Volodymyr Zelensky sait parfaitement qu'il est observé par Donald Trump. Est-ce qu'il s'épuise à être le bon élève, j'y mets des guillemets, pour lui dire « mais nous faisons des efforts, nous sommes là, nous voulons négocier ». Est-ce qu'il s'épuise là-dessus ? Et la deuxième partie de la question, ce serait « qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que Poutine se sente contraint à accepter quand même une forme de négociation et à y laisser quelques compromis.
Sur votre première question, je pense qu'effectivement, Zelensky, s'épuise, c'est peut-être un trop grand mot, mais il subit une épreuve terrible, une épreuve de patience, d'imagination, de créativité. Et donc, forcément, il y a une usure qui se produit et forcément, il peut commettre des erreurs. Plus c'est dur, plus ça dure, plus il risque de commettre des erreurs. Sur votre second point, ce qu'il faudrait pour vraiment faire changer d'avis Poutine, c'est que le rapport de force se renverse en sa défaveur. Et comme je l'ai dit, c'est pas certain qu'on en soit très très loin, à vrai dire. Mm-hmm. Personne ne le sait. Alors, les sanctions, l'efficacité est discutable, et surtout, c'est à long terme. Mais quand même, l'économie russe souffre, et sur le terrain, les armées russes ne marquent pas vraiment de points. Mm-hmm. Il y a peut-être un dernier paramètre, c'est l'attitude des Chinois, des Brésiliens et des autres, qui pourrait avoir aussi une influence sur Poutine. Je crains personnellement que les Chinois sont assez satisfaits de la situation actuelle. Peut-être que dans ce qu'on appelle le Sud global, là, en revanche, il perd quelques points.
Voilà, et qu'on pousse peut-être à cette négociation. J'ai une dernière question rapide pour vous, Michel Duclos. Vous avez dit que l'Europe était revenue dans la boucle. On a compris qu'en ce moment, l'Europe effectivement refusait d'être spectatrice du jeu à la fois de Trump et celui de Poutine. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus à ce stade? Est-ce qu'on n'est pas au bout aussi de ce que l'Europe peut proposer?
C'est une situation difficile pour les Européens, mais ils ont montré... Enfin, quand on dit les Européens, c'est surtout Macron, Starmer, et maintenant Merz et...
Donc le groupe qu'on a vu à Kiev, notamment.
Bien entendu.
Ouais.
Notamment Macron, c'est une de ses forces, il faut le reconnaître, c'est qu'il sait parler à Trump. Je pense que là... En ce moment, ils sont en train de reculer, mais on peut imaginer que dans quelques jours, ils reviennent sous une autre forme. Mais c'est un jeu terrible où il faut toujours inventer quelque chose et faire preuve de créativité.
Michel Duclos, vous êtes ancien ambassadeur et aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, ça se passe au Mexique dans le reportage d'Un jour dans le monde. Nous regardons cohabiter les loups et les rancheros au milieu de leurs troupeaux pour aller ensemble jusqu'à 19h. Il y a Kevin Dufraîche sous les radars, Kevin.
Au Malawi, la difficile cohabitation entre les éléphants et les habitants.
Et le monde à 18h50 avec Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir. Aux États-Unis, la douloureuse autopsie d'une présidentielle perdue, un livre incendiaire et des démocrates qui hésitent à exercer leur droit d'inventaire.
La tech, la première, et Stéphane Jourdain. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Fabienne. Grosse gueule de bois pour les influenceurs à Dubaï. Certains font leur bagage, mais ce n'est pas pour revenir en France.
Allez, restez avec nous les amis. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par la playlist d'Inter avec The Cure. All I Ever Am, tiré de l'album Songs of the Lost World. C'est une version remix du même album qui est attendu pour dans un mois maintenant, le 13 juin. Voilà, vous savez tout. Le reportage est au Mexique ce soir avec des loups, contrairement à ce que vous entendez. Hein, ce sont bien des vaches que vous entendez là. Les loups qui, comme chez nous, bénéficient d'une protection. Vous savez qu'en Europe, son statut d'espèce protégée a été modifié. Au Mexique, le loup avait complètement disparu dans les années 80. Victime des campagnes d'extermination, il fait doucement son retour. Depuis les années 2000, quelques individus ont été réintroduits avec succès dans les montagnes de l'état du Chihuahua. Et désormais, ils sont entre 40 et 50 dans une région de Rancheros, donc où l'élevage de bovins est l'une des activités principales. On pourrait croire que le loup n'y est donc pas le bienvenu. Eh bien, au contraire, certains rancheros encouragent la réintroduction et l'effort de conservation de l'espèce. Le reste, c'est Gwendolina Duval qui raconte.
Ici, il y a une trace de loup.
Seulement repérable par des yeux aguerris, quelques empreintes se dessinent dans la poussière brune.
Là, regarde, ici, la trace est fraîche. Il est allé par là. Et là, il y a d'autres traces de biches.
Jaime Rufo est vaché. Dans ce grand ranch perché à 2300 mètres d'altitude, il garde 300 bovins qui évoluent en semi-liberté entre les roches abruptes et la forêt. Il s'y fait partie des pro-loups.
Ils ont été libérés ici et il ne s'est rien passé. Vraiment, ça n'a rien changé. J'ai passé toute ma vie ici avec ces animaux, donc personne ne peut me raconter d'histoire. Le loup n'a pas fait tant de mal. Il y a d'autres animaux qui attaquent beaucoup plus les troupeaux, comme le puma ou le coyote.
Ce vacher endurci par les années de travail dans les ranchs ne craint pas les prédateurs. De ses rencontres avec les loups, il garde même des bons souvenirs.
Oui, je les ai vus avec des jumelles. La première fois, je les avais juste entendus, c'était drôle. C'est vraiment un animal magnifique.
Un peu plus bas dans la plaine, une brigade composée uniquement par des femmes observe la faune et guette la progression des loups dans la région en installant des pièges photographiques. Elsa Molina en fait partie depuis plus de 10 ans.
Déjà, quand j'étais enceinte de ma fille, j'allais sur le terrain pour faire de l'observation. Et je continue maintenant avec la brigade. À chaque sortie, avec les appareils photo, on cherche des traces d'animaux.
Cette équipe a été créée par la biologiste Carmen Garcia.
Ce qu'on cherche avec cette brigade, c'est que les femmes acquièrent de l'expérience. Il s'agit aussi de partager le travail qu'elles font et faire découvrir les espèces que l'on rencontre ici avec l'importance qu'elles ont dans notre écosystème, afin que d'une manière ou d'une autre, on puisse coexister.
Avec son collègue Christian Aguilar, ils accompagnent le retour du loup dans le nord du Mexique.
Avant, on faisait en sorte d'éloigner les loups des troupeaux. Aujourd'hui, on travaille pour rapprocher les loups et les éleveurs.
Les scientifiques ont élaboré une stratégie pour les rallier à leur cause. Ils ont créé une coopérative et aident les rancheros à vendre une viande biologique 2 fois plus chère. Ainsi, quand ils gagnent correctement leur vie, les éleveurs sont davantage disposés à accepter les loups. À tel point qu'Alonso Olivas a décidé de libérer des prédateurs sur ses terres.
Moi, je suis très content car les loups aiment mon ranch. Ils viennent souvent me rendre visite. Bien sûr, j'ai eu quelques problèmes au début, mais maintenant c'est bon, j'ai tout mis en ordre. J'aime bien aller voir les images des pièges photographiques. J'adore voir d'où ils sortent, où ils sont, combien il y en a.
Évidemment, beaucoup d'autres rancheros sont encore à convaincre dans la région. Mais le biologiste promet que la réintroduction du loup fonctionnera si, en plus de l'intérêt écologique, les facteurs sociaux et économiques des locaux sont pris en compte.
On est arrivé avec l'idée romantique de sauver le loup. Mais on ne voyait pas les problématiques des producteurs. On leur disait, vous devez protéger les loups, car c'est une espèce en voie d'extinction. Et eux, ils nous répondaient, oui, mais tu te rends compte que je n'ai pas déjeuné ? Et que mes enfants ont le ventre vide parce que l'élevage est en crise. Donc nous devons régler les problèmes de chacun pour trouver le moyen de conserver les loups et que ce soit un succès.
Gwendolyn Duval pour le reportage avec les loups. Merci, l'actualité internationale passée sous les radars. C'est Kevin Dufraîche. Et bon, nous restons au Mexique avec un archéologue un peu particulier.
Oui, puisqu'il a presque 400 millions d'abonnés sur YouTube, l'américain MrBeast, dans sa dernière vidéo postée samedi, Il visite plusieurs cités mayas dans le sud-est du pays. Et il se vante d'avoir accès à des endroits dans lesquels personne ne va, à l'intérieur des pyramides et des temples vieux de 2 millénaires. Sauf que ça ne plaît pas du tout aux internautes mexicains. La vidéo a déjà été vue plus de 50 millions de fois. Dans les commentaires, ils sont nombreux à s'interroger comment un étranger a pu avoir accès à des lieux interdits aux locaux. Est-ce vraiment respectueux de notre culture de se servir de la culture mexicaine pour faire des vues sur YouTube? La polémique a pris une telle ampleur que la présidente Claudia Sheinbaum a été interrogée à ce sujet lors de la conférence de presse quotidienne qu'elle tient. Il avait un permis de l'INA, l'Institut national d'archéologie et d'histoire, a-t-elle répondu. En effet, MrBeast remercie dans la description de sa vidéo l'Institut ainsi que le ministère du tourisme mexicain. L'INA qui assure que tout le tournage a été supervisé et qu'il n'a eu aucun impact sur le patrimoine.
On a entendu beaucoup de loups tout à l'heure. Là, nous sommes au Malawi avec beaucoup d'éléphants.
Oui, parce que ce pays d'Afrique australe mène depuis plusieurs années une vraie politique de repeuplement des pachydermes. Dans le parc national de Kasongo, par exemple, plus de 250 éléphants ont été transférés en 2022, sauf qu'ils sont devenus un problème pour les habitants des villages qui bordent le parc. Les troupeaux ravagent les champs de maïs, endommagent les maisons et pire, blessent, voire tuent. Au moins 12 personnes sont mortes tuées par des éléphants depuis 3 ans. Selon l'IDEA, un cabinet d'avocats britanniques qui représente 10 plaignants au Malawi et en Zambie, parce que les concernés intentent en effet des actions en justice. Ils réclament plusieurs millions de dollars de dédommagement au Fonds international pour la protection des animaux, ONG basée au Royaume-Uni, qui a aidé le gouvernement à déplacer les éléphants. Ils réclament aussi la mise en place de clôtures adaptées pour éviter que les troupeaux ne pénètrent dans les villages. L'ONG reconnaît que la cohabitation provoque des incidents, mais se défend en expliquant que ce n'est pas elle qui gère les parcs nationaux.
En Australie, qui attend une première historique.
Oui, le décollage de la première fusée Made in Australia, il était prévu ce matin. Il a été repoussé en raison d'un petit problème technique sur le pas de tir près de Bowen, sur la côte Est. Ce pourrait être pour la nuit prochaine. Cette fusée de 3 étages s'appelle Eris, développée par une société privée, Gilmore Space, depuis plus de 10 ans. Mais l'enjeu, c'est vraiment juste qu'elle décolle. Nous serons satisfaits si elle sort de l'aire de lancement, explique le patron de Gilmore Space à l'AFP, pas trop, ajoutant même que 10 secondes de vol, ce serait fantastique. Et que si la fusée gravite en orbite, il fera probablement une crise cardiaque. À terme, cette fusée a vocation à mettre en orbite base des petits satellites entre 100 et 200 kilos de capacité. Pour le moment, elle va s'envoler avec, pour toute charge utile, un petit pot de Vegemite, une sorte de pâte à tartiner salée, très populaire là-bas. Ça n'a pas l'air très bon, je dois bien dire, mais comme la fusée, c'est une fierté australienne.
Voilà, la fusée et son petit pot, c'est le chaperon rouge version 2.0. Merci beaucoup Kevin. Vous partez avec Michael Kiwanuka, Black Man in a White World. À tout de suite, vous êtes dans Un Jour dans le Monde.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I've been low and I've been high.
Man in a Wild World sur France Inter et dans Un jour dans le monde, c'était Michael Kiwanuka. Le Monde à 18h50, c'est Louise Baudet.
How dare you?
The world is changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Et Louise, nous partons pour les États-Unis où la presse bruisse des bonnes feuilles d'un livre qui révèle de nouveaux détails sur le déclin physique et mental de Joe Biden, le récit d'une dissimulation au service d'un choix, celui de se représenter. Et vous nous expliquez pourquoi la défaite de novembre et son autopsie plombent durablement le camp démocrate.
Oui, le titre du livre à paraître mardi prochain est sans ambiguïté Le péché originel, où l'histoire du déclin du président Biden, d'une dissimulation et du choix désastreux de se représenter. Les co-auteurs Jake Tapper de CNN et Alex Thompson du site d'information Axios ont rencontré plus de 200 acteurs et témoins qui racontent ce pari désespéré qui a échoué et qui, selon les auteurs, s'inscrit dans une campagne de tromperie sans précédent, déni et manipulation qui ont conduit directement au retour au pouvoir de Donald Trump.
Et ce livre, Louise, raconte plusieurs anecdotes révélatrices.
Oui, récit de ce moment stupéfiant où, lors d'une réunion de levée de fonds en juin 2024, Joe Biden ne reconnaît pas l'acteur George Clooney, l'organisateur de la soirée, qu'il connaît pourtant depuis des années. Récit de ses conciliabules entre assistant. Le président ne devrait-il pas utiliser un fauteuil roulant en cas de réélection? Description par le menu de ces instants où il se fige, perd le fil de ses pensées, tient des propos décousus, oublie le nom de ses principaux collaborateurs. Déclin révélé au monde entier lors du fatidique débat télévisé du 27 juin contre Donald Trump. Joe Biden jette l'éponge 3 semaines plus tard, mais il est déjà trop tard.
Et selon les auteurs, Louise, cet entêtement est la principale raison de l'élection de Trump et il vise l'entourage de Joe Biden.
Oui, sa famille et un groupe de fidèles collaborateurs qu'ils appellent le Politburo. Il aurait tout mis en œuvre pour cacher le crépuscule d'un homme. Président égocentrique, protégé par une coterie servile, écrit le Washington Post. Il a tout foutu en l'air, confie aux auteurs l'un des rares à parler en son nom. David Plouffe, ex-conseiller de la campagne express de Kamala Harris, 107 petits jours qu'il décrit comme un cauchemar.
Les autres personnalités citées ont souvent voulu rester anonymes et c'est révélateur.
Oui, signe que le Parti démocrate craint d'aborder publiquement le sujet. La garde rapprochée de l'ex-président dément tout d'abord et Joe Biden lui-même s'oppose à tout reportage sur la fin de sa présidence, raconte la presse. Il est réapparu dans les médias ces dernières semaines, mais dans des interviews comme pour maîtriser le récit et façonner son héritage. Des voix s'élèvent cependant dans le camp démocrate pour réclamer un adjournamento. Biden n'aurait jamais dû se représenter, aveu nécessaire selon eux pour regagner la confiance des électeurs.
Mais d'autres voudraient surtout tourner la page en fait.
Oui, cela estime que le vent est en train de tourner, que le chaos social et économique potentiellement engendré par la guerre des droits de douane de Trump et son projet de loi budgétaire, que tout cela va jouer en faveur des démocrates et que ce livre et les commentaires qu'il suscite détournent le parti de ce qui devrait être sa seule obsession, bloquer les initiatives de Trump et remporter les élections demi-mandat en 2026. À ce titre, certains regrettent les apparitions récentes de Joe Biden qui donne à Trump l'occasion de l'utiliser encore et toujours comme repoussoir. Tourner la page donc sans passer par la case peut-être nécessaire du droit d'inventaire.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le jeudi, Stéphane Jourdan explore nos vies numériques et il y va la tête la première.
France Inter, le 18-20.
Et cette semaine, Stéphane, vous nous parlez de Dubaï, la ville des Émirats Arabes Unis est-elle en train de tourner la page des influenceurs? En tout cas, ils sont nombreux à déchanter, certains font même leur bagage, en cause l'immobilier qui explose et puis la réputation de l'Émirat qui devient un repoussoir sur les réseaux.
Et oui, bye bye Dubaï, c'est l'histoire d'une gueule de bois, celle des influenceurs revenus d'un prétendu paradis. Voici par exemple Julia Paredes, influenceuse originaire de Compiègne, 1 million de followers. Écoutez comment il y a 4 ans, elle justifiait son installation à Dubaï.
On y va pour le climat, ça c'est sûr, on en peut plus de la pluie. Pour le climat, pour la qualité de vie, pour la sécurité, pour aussi... Alors comme je vous disais, à Dubaï, les enfants sont rois, il y a énormément de choses pour eux, les activités, les écoles incroyables. Voilà, on s'est renseigné, les écoles là-bas, il y a zéro taux d'échec. Il n'y a que des réussites. Dans les écoles, ils apprennent des langues. Dès 4 ans, ils apprennent 3 langues.
3 langues, zéro taux d'échec, ça fait envie. Et pourtant, 4 ans plus tard, gros coup de mou.
Tout ce qu'on ne paye pas en France, on le paye ici. En France, on a la sécurité sociale. On ne paye pas le médecin, on ne paye pas... je ne sais pas si moi, la première fois que j'ai accouché en France, je n'ai pas payé mon accouchement. Ici, on paye l'accouchement. Il faut savoir aussi que les placements de produits... on en a moins en étant à Dubaï, parce qu'il y a plein de marques françaises qui veulent pas bosser justement avec nous parce qu'on est à Dubaï. Mais moi, avant, j'avais 3 postes par jour. Maintenant, j'en ai 1 tous les 2 jours. Et encore.
Les marques françaises fuient Dubaï et du coup, l'émirat disparaît peu à peu des algorithmes. Écoutez cet échange entre 2 influenceuses qui barbotent dans la piscine de leur résidence de luxe à Dubaï.
Non, c'est se tirer une balle dans le pied d'être à Dubaï.
Ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Non.
Ouais. Parce que t'as vite fait le tour déjà.
Et non, en plus, parce qu'on n'est plus dans l'algorithme français. C'est très compliqué de vivre à Dubaï et de travailler sur les réseaux. On se dit, quand on arrive ici, ouais, ça va être bien et tout. Mais non, parce que déjà, les Français, ils en ont marre de Dubaï. Donc déjà, quand tu viens à Dubaï, ils ont le seum. Donc déjà, ils n'ont même pas envie de t'en regarder.
Ajoutez à cela un marché de l'immobilier en hausse, avec du très haut de gamme qui explose. Et vous comprendrez pourquoi une brouette d'influenceurs très populaires ont quitté l'émirat ces derniers mois. Vincent Quérault, 1,4 million de followers, Rim Renon, 2 millions, Raphaël Pépin, 2 millions, Anthony Matteo, 1 million, ou Mahdi Bursiaga, 2 millions de followers.
Il faut dire, Stéphane, qu'en plus de tout ça, leurs revenus sont en chute libre, et notamment depuis que Booba les a pris en grippe.
Et oui, difficile à croire, mais Booba a bien une incidence sur les flux migratoires de Dubaï. On retrouve Julia Paredes. Ses revenus s'écroulent depuis que le duc de Boulogne a commencé à dézinguer les influenceurs et l'escroquerie des placements de produits déguisés.
C'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu toute une polémique autour des influenceurs, où là, nous, ça nous a tués au niveau du taf. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. C'est réel. Franchement, il nous a tué le business et je trouve pas ça cool. Parce que nous, on le détruit celui-là.
35 000 euros par mois avant Booba, 5 000 euros depuis, c'est ce qu'on appelle tweeter efficace. En fait, le chevalier blanc Booba a forcé le législateur à réguler le secteur. C'est ce que confirme la spécialiste des influenceurs Audrey Chipot, autrice de Derrière le filtre, enquête sur le système des influenceurs.
Le message de Booba, c'était que les influenceurs prenaient leurs abonnés pour des pigeons. En gros, c'était ça. Puis voilà, il parlait vraiment d'escroquerie en bande organisée. Booba a eu une incidence sur les journalistes et Booba a eu une incidence sur nos politiques. Il en a parlé quotidiennement pendant plusieurs mois. Et puis, nos politiques s'en sont saisies et ont créé une loi pour réguler l'influence commerciale.
Depuis la loi du 9 juin 2023, l'activité des influenceurs est strictement encadrée. Fin du Far West.
Et donc, si on dézoome quand même un peu, Stéphane, qu'est-ce que ça nous dit de Dubaï, tout ça ?
Que la population est en train de changer. Pour William Guéresh, universitaire français qui vit aux Émirats depuis 20 ans, beaucoup de Russes s'installent à Dubaï pour parer les sanctions occidentales qui visent Moscou.
Par exemple, c'est vrai qu'on peut parler des Russes qui viennent. Il y a effectivement, quand il y a des Russes qui sont à Dubaï et à Abu Dhabi, on entend parler russe par exemple.
On entend parler russe, il y a aussi beaucoup plus d'exilés britanniques qu'avant selon lui. En fait, Dubaï a réussi à changer un peu son image, moins besoin d'argent pour faire venir les expatriés.
Ça, ce temps-là, des expatriés payés avec des packages par exemple, la scolarité des enfants, etc., ce temps-là est révolu. C'est-à-dire que les Émiriens ont très bien compris aussi qu'ils n'ont plus besoin de payer pour attirer, sachant que maintenant tout le monde est d'accord pour venir aux Émirats ou à Dubaï pour travailler, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant.
Rappelons que ces expatriés représentent plus de 90% des habitants de Dubaï.
Alors quand même Stéphane, revenons à nos chers influenceurs, où est-ce qu'ils s'installent maintenant alors après Dubaï ?
Alors la réponse est sur le TikTok de l'ancienne candidate des Ch'tis, Hillary, et de son époux mannequin Giovanni.
Bali. Pourquoi on a choisi Bali ? Dans un premier temps, parce qu'on avait ce besoin de quitter Dubaï. Dubaï, on adore Dubaï, on adore y vivre, on a passé beaucoup de merveilleux temps là-bas.
Mais voilà, tout était parfait et à un moment donné, quand tout est parfait, pourquoi pas prendre des risques ? Pourquoi pas Bali ? Et sur un coup de tête, ça y est, on s'est dit, on part à Bali.
Quand tout est parfait, faut se méfier. Fabienne, Bali, nouvel Eldorado. Notre experte Audrey Chipot compte les influenceurs qui prennent un vol sans retour.
En tout cas, moi, j'ai pu en recenser plus d'une dizaine. Il y en a probablement plus, en sachant que Bali était déjà une destination prisée par les créateurs de contenu. Bali, où il y a une fiscalité qui est avantageuse, parce qu'il n'y a pas d'impôt les 6 premiers mois à peu près.
Mais c'est pas ça la raison. Beaucoup, fini les fesses refaites, fini les voitures de sport, fini les gratte-ciel.
À Bali, on vante le retour à la nature, la méditation, le surf et le yoga. Mais cet exode a un prix. Sur TikTok, le hashtag BaliLife cumule 1 milliard de vues. Résultat, l'île est envahie par le tourisme de masse. En un an, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 34%.
Merci beaucoup Stéphane. Je connais pas un nom d'influenceur que vous avez cité.
Moi je ne sais pas s'il faut...
Ah, merci beaucoup. Parce que je ne sais pas s'il faut que je m'en félicite ou s'il faut que ça me rende extrêmement triste. Vous reviendrez jeudi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, on est parti du comté pour se demander s'il est possible de cumuler manger éthique et manger plaisir.
Ah bah, quand on touche au fromage, ça peut chauffer le standard et WhatsApp. Sylvain, il ne s'agit pas d'arrêter le comté, il s'agit de produire moins, de consommer moins. Sommes-nous prêts à payer plus et consommer moins? C'est toute la question. Arthur, ça fait 7 ans que je me passe du fromage et tout va bien. J'ai des alternatives pour ceux que ça intéresse. Je mets en priorité l'avenir de mes enfants et des animaux que j'épargne, mon plaisir passe en troisième.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous et même chemin par WhatsApp. A tout de suite.